Vous écoutez
RMC.
Bon réveil à vous, bon dimanche, RMC 9h.
RMC, la matinale week-end.
Les infos avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Les États-Unis au chevet de l'Ukraine. Une aide de 61 milliards de dollars va être débloquée. Flocons de neige, gelée, température négative. L'hiver est bien de retour et cela inquiète les agriculteurs. Liège, Bastogne, Liège. C'est aujourd'hui 4e monument de la saison cycliste. On attend tous le duel entre Pogacar et Van Der Poel.
D'abord, cette aide massive est cruciale pour l'Ukraine.
61 milliards de dollars vont être débloqués par les États-Unis. Le Congrès américain a donné son feu vert hier. Cette aide doit être encore approuvée à partir de mardi par le Sénat. La livraison des premiers équipements devrait arriver d'ici 2 à 3 semaines. Et pour Patrick Dutartre, l'ancien général de l'armée de l'air, c'est une aide fondamentale pour que l'Ukraine résiste face à l'assaut russe.
Ça va être, je pense, véritablement un tournant pour l'année 2024, à la fois sur le plan militaire, les ressources dont ont besoin les militaires ukrainiens pour se défendre, éventuellement récupérer un peu de terrain, mais également pour le moral. C'est une excellente nouvelle pour des matériels qui vont venir rapidement sur le front, parce qu'il y a des prépositionnements, mais tant qu'on n'avait pas ce vote au Congrès, ce n'était pas possible de les débloquer.
Réaction de Volodymyr Zelensky sur le réseau social X, cette aide sauvera des milliers de vies. Le chef de l'État, Joe Biden, salue une aide cruciale au rendez-vous de l'histoire. TikTok vit peut-être ses dernières heures aux États-Unis. La Chambre des représentants a adopté un texte menaçant de l'interdire si l'application ne coupe pas ses liens avec la Chine. Le réseau social est accusé par des responsables américains de permettre à Pékin d'espionner ses utilisateurs. Les ambassadeurs des pays ayant voté pour un État palestinien à l'ONU, convoqué aujourd'hui par Israël, la France, le Japon, encore l'Équateur sont concernés. Pour Israël, reconnaître un État 6 mois après l'attaque du 7 octobre est une prime au terrorisme. Cette proposition algérienne a été rejetée.
Et c'est dans ce contexte que Sébastien Lecornu tente de rassurer les Français.
Le ministre des Armées affirme ce matin dans un entretien aux Parisiens aujourd'hui en France que Paris fait tout pour éviter l'escalade depuis le mois d'octobre et appelle à un cessez-le-feu à Gaza. Il détaille, Margot Boult, l'action concrète de la France dans cette région.
Oui, en revenant notamment sur la décision française il y a une semaine d'intervenir en Israël pour intercepter l'attaque de drones iraniens. Une décision critiquée depuis par des députés insoumis, mais qui était indispensable d'après le ministre des Armées pour défendre nos bases militaires présentes dans la région. En revanche, Sébastien Lecornu l'affirme, la France ne vend aucune arme à Israël, seulement des pièces détachées, notamment pour alimenter la bulle de défense aérienne de l'État hébreu. Vis-à-vis de l'Iran, le ministre clarifie la position française. Nous ne sommes pas en guerre contre Téhéran, dit-il. En revanche, en ayant encore des otages français sur son sol et en continuant de développer son programme nucléaire, l'Iran menace non seulement la sécurité de la région, mais aussi la nôtre en Europe. En résumé, l'activité militaire française a principalement pour but en ce moment de maîtriser l'escalade dans la région, conclut le ministre.
Merci Margot Boult.
RMC 9h03, un véritable coup de froid s'abat sur la France.
Eh oui, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Les températures négatives font craindre le pire aux agriculteurs. Les nuits les plus froides sont attendues en début de semaine. Les agriculteurs ont les yeux rivés sur les prévisions météo. Luc Allobert.
Oui, c'est le cas de Pierre-Jean Laouret dans les Yvelines, par exemple. La température devrait descendre proche des 0 degrés les prochaines nuits. Il craint pour sa production de poires.
J'ai peur. Le problème, c'est que c'est vraiment la roulette russe. Ça passe ou ça casse. Sur quelques heures, on peut perdre la récolte annuelle, comme avec une averse de grêle.
Avec la chaleur précoce, les fruits se sont développés plus tôt, un phénomène récurrent avec le réchauffement climatique. Les gelées arrivent donc à un moment encore plus sensible. Thierry Moisy, producteur de pommes en Indre-et-Loire.
2 degrés sous abri, ça peut faire du 0 jusqu'à moins 1, moins 2 dans certains fonds de vallée. On a des fruits formés qui font 5, 6, 7 mm. Si les températures descendent de trop, ils noircissent et ils tombent.
De quoi perdre une partie de sa production. Alors certains se protègent. C'est le cas d'Aurélien Esprit dans la Drôme. Il a mis en place plusieurs systèmes contre le gel.
Il existe des moyens comme des bougies anti-gel qu'on peut disposer à chaque arbre et allumer pour réchauffer l'atmosphère. On peut également mettre en place des tours anti-gel qui sont des tours avec une éolienne, une hélice qui va ramener la chaleur vers le sol.
Mais ça représente un coût important. Aurélien Esprit a dû investir 300 000 euros pour se protéger.
Un reportage de Lucas Laubert. Les pharmaciens, eux, vont fermer leur officine le 30 mai prochain. Leur syndicat les appelle à la grève. Objectif, protester contre les pénuries de médicaments et la baisse des budgets. Une autre mobilisation est également prévue le week-end de Pentecôte. Une grève des gardes du 18 au 20 mai.
Et puis bientôt, un compte épargne-temps pour tous les salariés.
Un accord pourrait aboutir cette semaine à sa mise en place pour l'ensemble des salariés. Concrètement, il s'agit d'épargner des congés payés non utilisés, des primes, indemnités et les utiliser ultérieurement. Alors comment cela fonctionne ? Réponse d'Isabelle Mercier, secrétaire nationale CFDT, invitée ce matin de la matinale RMC.
C'est un compte épargne-temps qui sera géré par la Caisse des dépôts et des consignations, donc complètement à l'extérieur de l'entreprise et complètement rattaché au salarié lui-même, qui permettra au salarié de pouvoir épargner du temps pour pouvoir un jour utiliser ce temps selon ses besoins personnels ou ses besoins d'engagement familial ou d'engagement associatif. Aujourd'hui, les salariés, ils ont envie d'équilibrer leur vie entre le travail et la vie perso de manière différente tout au long de la carrière. Du coup, il y a un vrai enjeu à travailler sur les conditions de travail et l'organisation du travail.
Et une fois l'accord validé, normalement mardi, le texte devra être transféré dans une loi à l'automne prochain.
RMC, il est 9h06, place au Grand Prix de Formule 1 de Chine.
Jean-Luc Roy suit la course pour RMC. Le départ de ce Grand Prix, normalement, vient d'être donné. Une nouvelle fois, Max Verstappen s'était lancé en pole position et devrait, sauf surprise, une nouvelle fois l'emporter.
Oui, c'est encore un peu tôt pour le dire, effectivement, Clément. Il y a 56 tours à parcourir de ce tracé long de 5 km 451. Nous sommes actuellement dans le deuxième tour. Verstappen a parfaitement réussi son départ. En revanche, c'est Fernando Alonso, le double champion du monde de chez Aston Martin, qui est parvenu à devancer Sergio Perez. Donc Alonso est en deuxième position, Perez troisième devant les deux McLaren de Norris et Piastri. On trouve ensuite George Russell avec la Mercedes qui a pris un très bon départ au détriment des Ferrari, de Leclerc et Sainz en septième et huitième position. Du côté des pilotes français, on a gagné une place pour Ocon qui est 12e, une place également pour Gasly qui est 14e. Lewis Hamilton est toujours 19e pour le moment. Il y a donc 56 tours à parcourir.
Merci Jean-Luc Roy, on vous retrouve tout au long de la matinée sur RMC pour nous faire vivre ce Grand Prix de F1.
Le football, l'une des affiches de la 30e journée de Ligue 1, se joue ce soir à 21h.
L'OL se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le leader parisien en grande forme depuis la phase retour. Lyon a de l'ambition face aux demi-finalistes de la Ligue des Champions. Pour l'entraîneur lyonnais Pierre Sage, c'est un gros challenge pour son équipe ce soir.
Ils sont inscrits positivement dans trois compétitions aujourd'hui. Et vu que c'est un club ambitieux, ils sont sur leur tableau de marche, j'imagine. Pour nous, de toute façon, on sait qu'on va jouer à un adversaire de très haut niveau. Ils ont prouvé cette semaine qu'en plus, c'est un adversaire de très haut niveau sur la scène européenne. Donc le challenge va être élevé, mais notre ambition l'est aussi.
Des propos recueillis par Edouard G. Coup d'envoi de PSG Lyon à 21h à suivre sur RMC. Lens se relance après trois défaites de suite en Ligue 1. Les 100 heures se sont imposés hier soir 1-0 face à Clermont. Le Stade Rennais a martyrisé le FC Nantes 3-0 au classement. Les Lensois sont 6e ce matin et comptent 4 points d'avance sur Rennes 7e. Clermont et Lanterne Rouge. Nantes est 14e. Chez les Dames, le PSG victime d'une remontada hier soir en demi-finale allée de la Ligue des Champions féminines. Les partenaires de Katoto menaient 2-0 sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Avant de sombrer, les Lyonnaises ont marqué 3 buts en 6 minutes. Victoire 3-2. Match retour dimanche prochain à 16h au Parc des Princes. Dans l'autre demi-finale, Chelsea a pris une bonne option sur la qualification, s'imposant 1-0 sur la pelouse du FC Barcelone. Et puis, Garbine Muguruza stoppe sa carrière. L'ancienne numéro 1 mondiale, vainqueur de Roland-Garros, Wimbledon, a décidé de prendre sa retraite à l'âge de 30 ans. L'Espagnole l'a annoncé hier lors d'une conférence de presse. Elle restera la seule à avoir battu les Sœurs Williams en finale de Grand Chelem.
Le cyclisme, c'est le quatrième monument de la saison. Aujourd'hui, Liège-Bastogne-Liège.
Plus de 254 km au programme et un duel très attendu entre Pogacar et Van der Poel. Le Slovène l'a déjà remporté en 2021 et il partira malgré tout favori en l'absence du double vainqueur Remco Evenepoel. Arnaud Souk.
Oui, le rouleau compresseur Tadej Pogacar. 6 victoires en 9 jours de course cette saison et encore l'intention aujourd'hui de tout écraser sur son passage.
Je ne m'imagine pas perdre. Je crois que c'est assez clair. J'essaye de gagner le plus possible.
Pour autant, le Slovène le sait, il aura fort à faire en Belgique face à la concurrence, notamment face à Mathieu Van Der Poel, l'autre épouvantail de ce début d'année cycliste.
C'est le coureur des grosses courses. Cette année, avec le maillot de champion du monde, il est encore un cran au-dessus, mais il ne sera pas le seul à surveiller, car c'est aussi une course qui correspond aux grimpeurs, mais ce sera une course assez ouverte.
Une course que n'a jamais encore gagnée, Mathieu Van Der Poel. Avec plus de 4000 mètres de dénivelé positif, il faut dire que le parcours ne correspond pas forcément aux qualités du champion du monde.
Non, ça va être très difficile, mais il y a beaucoup de coureurs qui sont mieux dans ce type de course que moi, mais on ne sait jamais comment ça se déroule.
Et parmi les coureurs attendus ce dimanche, dimanche, il y aura notamment l'anglais Pidcock, mais aussi les français Vauquelin, Gaudu, Madouas et Cosnefroy en forme en ce printemps cycliste.
Le peloton va s'élancer à 10h10, une course à suivre sur RMC.
Et les courses justement sur RMC?
Le Quintet Plus se déroule sur l'hippodrome d'Auteuil à 15h15, le pronostic de Dimitri Blanc-L'Œil. Son favori, le numéro 10, Caligram, son outsider, le numéro 6, Flanker. La course du Quintet est à suivre en direct sur RMC et RMC Découverte.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci beaucoup Clément Gouitz. Beaucoup d'informations et surtout beaucoup de sport en ce dimanche. Ça donne du grain à moudre, j'allais dire. Bonjour Jean-Christophe Drouet.
Du pain à moudre.
Ouais,
c'est ce que disait Laurent Blanc en conférence de presse. Je n'étais pas entraîneur du PSG. Ça donne du pain à moudre. Ouais, voilà. Donc du pain à moudre à partir de
9h30. La roue tourne à tourner, quoi.
Les grandes gueules du sport. Nous allons parler de l'Olympique de Marseille qui retrouve le championnat aujourd'hui. L'OM va-t-il devoir choisir entre le championnat et la Ligue Europa, qualifiée en demi-finale de cette Ligue Europa. Nous parlerons également du nouveau scandale dans la natation avec des nageurs chinois qui ont été contrôlé positif. La lutte anti-dopage régresse-t-elle? Ce sera notre question. Et puis, évidemment, le Grand Prix de Chine en direct ce matin avec Jean-Luc Roy.
À tout à l'heure, Jean-Christophe, à partir de
9h30. Et d'ici là, le fruit de saison.
Et bien sûr, la fraise. Bonjour, Perico Légas.
Eh bien, on va ramener notre fraise, la vôtre, la mienne, et on est très fort là-dessus.
Oh que oui, et on va voir pourquoi cette année, ça vaut vraiment le coup d'acheter de la française. À tout de suite dans deux minutes.
RMC, la matinale week-end.
Le beurre et l'argent du beurre.
Bonjour Perico Légas.
Bonjour Mathieu.
Parlons des fraises.
Mort.
Nous sommes en pleine saison.
Pleine saison.
Alors attendez, parce que je suis ravi que vous veniez confirmer. Bonjour Clara Gabillet.
Bonjour.
Vous savez quand elle mange des fraises?
Non.
Ah bon, en hiver, en été?
Non. Je pensais que c'était un fruit d'été.
La fraise est un fruit de printemps, Perico.
L'hiver.
Oui, de fin d'hiver.
Et les meilleurs, et souvent les meilleurs sont à la fin de l'hiver, c'est-à-dire les trois premières semaines de
février.
Voilà, enfin, 15 février, 20 mars.
Il faut lui
refaire
toute l'éducation à cette Clara Gabillet.
Voilà. Mais on peut aussi en manger quand on est enceinte. On peut manger quand on est enceinte. Et je vérifie que la femme enceinte a besoin de fraises à 2h30 du matin.
Cette envie
le
de fraises,
15 novembre.
C'est donc pas un mythe.
Voilà, c'est pas un mythe. Ça reste pour autant un produit emblématique. Nous avons tous été enfants, une bonne fraise, comme tout bon fruit, mais la bonne fraise, c'est un instant de paradis, c'est un instant d'émotion. Vous savez, le nom, la fragrance vient du mot fragaria, qui est le nom latin de la fraise. La fragrance, qui est le seul terme qui associe la saveur et l'arôme, c'est-à-dire le goût et le parfum, une fragrance. Et vous avez des fraises qui sont, à mon avis, l'image un peu d'existence de Dieu ou du paradis. Pour certaines, j'en ai goûté 2-3 fois dans ma vie, j'avoue qu'on sort bouleversé. Mais on a aussi l'horreur absolue avec la fraise, précisément Mathieu et Clara, parce qu'elle a un succès fou, c'est le fruit emblématique du bonheur, de l'été, de la belle saison, parce qu'il y en a aussi un petit peu l'été, en tout cas c'est le printemps, on se jette dessus, et évidemment le productivisme financier commercial de notre monde a fait qu'on a inventé
Des usines à fraises,
voilà.
En Andalousie,
en Espagne. Alors attention, je défends, il y a eu une polémique entre Ségolène Royal et Pedro Sánchez, le président du Conseil espagnol, sur la tomate et sur la fraise, voilà. Il y a d'excellentes tomates en Espagne et ils en font aussi de très mauvaises. Et j'ai goûté en Espagne, dans des potagers traditionnels, des fraises merveilleuses. Mais enfin, la promesse de Huelva, au sud-ouest de l'Andalousie, à la frontière du Portugal, est un enfer écologique et social où on produit, j'allais dire, l'horreur alimentaire absolue qu'est cette fraise industrielle sur des milliers d'hectares.
Et qu'on retrouve dans nos supermarchés, majoritairement. Mais c'est pour ça, alors Perico, qu'on en parle ce matin.
Tout à fait.
Nous sommes en pleine saison de la fraise, mais la bonne nouvelle, si on peut dire, cette année, c'est que la fraise française retrouve des couleurs. Pourquoi? Parce que les coûts de production en Espagne ont augmenté.
Alors, d'abord, il y a une sécheresse terrible qui sévit en Espagne. On avait vu que la Catalogne, Barcelone va utiliser de l'eau de mer parce qu'ils vont manquer d'eau courante. Et le sud-est espagnol et l'Andalousie en particulier sont frappés depuis quelques années par une sécheresse terrible. Ils étaient déjà en carence d'eau en situation naturelle. Du coup, il y a des forages un peu sauvages que le gouvernement espagnol punit. Il y a un parc qui est un petit peu le parc du Mercantour espagnol qui s'appelle la Doñana, où il y a tous les oiseaux qui viennent se reposer pendant les migrations. Il n'y a plus d'eau et les producteurs de fraises, vous vous rendez compte qu'il faut 300 litres d'eau pour 1 kilo de fraises.
300 litres pour 1 kilo.
Ouais.
Donc, on comprend aussi.
Vous voyez, donc la production, donc c'est un puits sans fond et en plus une pollution parce qu'on utilise des des fongicides, des pesticides, des herbicides, l'éthyrimol qui est un véritable poison et le ciflumétophène qui sont utilisés à grande dose. La législation espagnole
arrêtez,
existe.
Parce que là, le dessert préféré en ce moment là, c'est la boîte de fraises au supermarché. Ça contient tout ça, plus la chantilly qui contient pas non plus.
Alors je vais utiliser ma formule préférée.
Vous allez nous dégoûter là.
Non, c'est 10 minutes de vie en moins.
Ah bon ?
Voilà.
Un plat de fraises en ce moment.
C'est une caricature que je vous dis, mais
si voilà, on achète celle-là.
Alors il y a des gens qui sont dans l'addiction de la fraise qui, pour des raisons bien entendu, les revenus modestes. Et c'est ça qui me révolte. La malbouffe, c'est toujours pour les pauvres. Ces gens-là se jettent sur ces barquettes de fruits mises en grande promotion commerciale par les grandes surfaces à des prix terrifiants de 99. Enfin, des choses terrifiantes. Et lorsque l'on analyse ces fraises-là, c'est un petit peu de mort que l'on vend. C'est vraiment du. En tout cas, c'est du poison que l'on voit à ces gens et surtout les enfants qui adorent ça. Elles sont dures. Elles sont pas de goût. Elles sont moites, voilà, par rapport à nos bonnes fraises françaises. Donc, alors, vraiment, abstraction totale de fraises espagnoles. Alors, à cause de la sécheresse, les coûts de production, le transport, elles ont augmenté de prix. Et du coup, elles talonnent à quelques centimes près. Hein. Alors, elles sont passées de 3, 4, 5, on est à 12, 14, 15 euros. Les premières bonnes fraises françaises sont à 12, 14, 15. Eh bien, si on peut faire le choix...
Cette voilà, année, prenez de la française.
Je ne dis pas que toute la française est exemplaire, mais on a encore... Aujourd'hui, des horticulteurs, surtout dans la vallée du Rhône, en Provence, dans le Lot-et-Garonne, dans le Sud-Ouest, avec des fraises exceptionnelles, que ce soit du côté d'Agen ou de Carpentras. La fraise de Carpentras est un des fleurons du patrimoine horticole français. On va en parler. Et là, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Même si c'est deux fois dans l'année, goûtez au moins à cette fraise.
Alors, quelle fraise choisir ?
RMC, le beurre et l'argent du beurre.
Allons tout près de Carpentras dans le Vaucluse, Péricot, Pernes-les-Fontaines, chez Monsieur Thibaut Pic. Bonjour.
Bonjour.
Producteur de fraises, fils de producteur, neveu de producteur. Vous êtes aussi grossiste dans le très haut de gamme. Vous fournissez les Palaces, le Ritz, le Georges V. Péricot, avant de commencer l'émission, là, me disait pendant la pub, c'est simple, sa fraise, c'est la meilleure du monde.
Je raconte rapidement l'anecdote. Le papa de Thibaut Pic, Raïm et Pic, ce sont des gens catalans d'origine qui sont venus... autrefois, et son tonton Élie, qui continue l'activité, qui va l'arrêter l'année prochaine, et son papa me dépose un jour à mon bureau, à Marianne, une petite barquette de fraises. Il m'avait vu à la télévision, je vois cette petite barquette de fraises sur mon bureau, je ne la goûte pas le soir même, je reviens le lendemain matin, je l'avais laissée sur mon bureau, et nous étions deux ou trois collègues en train de discuter, je prends la fraise, je la goûte, la discussion était passionnée, on la met à la bouche, on s'est tue. On était tellement bouleversés par le bonheur de cette fraise, mais j'ai été transcendé.
Et pour faire taire Péricot,
transcendé, et j'en avais presque les larmes aux yeux, j'en goûte une deuxième, le bonheur absolu, la fraise magique, avec ce côté rosacé, cet arôme, ce parfum, mais on mordait dans le paradis. Évidemment, il y en avait la carte de visite, j'appelle tout de suite le papa, monsieur Raïm Epic, le papa de Thibaut, il s'avère qu'il était à 2 kilomètres de l'endroit où j'allais en vacances, à côté de Carpentras, et on a créé, je le dis, une très belle amitié, et j'ai vécu un paradis fraisier, grâce à la famille Pic, les primeurs des fontaines à Pernes-les-Fontaines. Pour moi, c'était un pèlerinage annuel avec mes enfants, avec des amis. J'en ramenais à Paris et je raconte l'anecdote. J'en fais un jour goûter à Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, qui discutait avec le PDG de Nestlé. Vous voyez, c'est un déjeuner passionné. Je mets la barquette de fraises. Ils étaient en train de s'engueuler. Ils goûtent une fraise. Tout le monde se tait.
Et ben voilà.
L'amour, l'amitié. Et on a parlé de fraises jusqu'à la fin du repas.
Thibaut voilà Pic, incroyable les effets que vous produisez avec vos fraises, dont la particularité est qu'elles sont pleine terre, et ça c'est de plus en plus rare.
Oui, je pense que c'est plus de 95% de la production de fraises qui est en hors-sol, peut-être même plus.
Tout de même, plus seulement 5% sont en pleine terre.
Mais si vous saviez le boulot que c'est,
Qu'est-ce que ça change d'ailleurs de les faire pleine terre, Thibaut Pic ?
Dans le sol, vous avez plus de 38 éléments qui sont captés par les racines, qui viennent rajouter de la complexité du terroir dans la saveur. Forcément, en sol, tout est planifié d'avance. C'est des sacs qui sont achetés, qui sont normalisés. Vous avez pas plus de 6, 7, 8 éléments. Et voilà, plus après l'effet du sol, l'effet des bestioles qui viennent aussi aérer le sol, le travailler, tout ça. Ça, c'est quelque chose.
Et donc, il y a plus de risques pour naturelle, votre production, là, peut-être. Voilà. C'est plus pénible à ramasser, ce qui explique que c'est un peu plus cher.
Ah oui, on est coupé en deux. Hein. On est courbé en deux toute la journée. On est au sol. Hein. Donc voilà, hein, pour les dos, pour les reins, c'est assez compliqué. Alors qu'au sol, on travaille debout. Donc on travaille beaucoup plus vite. C'est aussi, on est moins gêné par les poussières et tout ça. Donc on a des meilleures cadences. Et forcément, la rentabilité est meilleure. mais le goût n'est pas aussi puissant qu'en pleine terre.
Évidemment.
Après, pour moi, le plus important, c'est surtout de la ramasser mûre. On peut avoir des très bonnes fraises de hors-sol, dans le cas où c'est des bonnes variétés, dans des bonnes régions, et aller ramasser mûres.
C'est un peu le problème qu'on voit même dans les étals des marchés, hein, des maraîchers, des queues de fraises, enfin des culs de fraises blancs.
Oui. Eh oui. Si c'est blanc, ça veut dire que ça a été ramassé blanc. Non. C'est pas que le blanc qui est pas bon, c'est que la fraise entière a été ramassée blanche avec quelques taches de rouge. Et par la chimie naturelle, elle va rougir une fois qu'elle a été ramassée. Mais la partie blanche proche du vert ne va jamais tourner rouge. Mais ça veut dire que toute la fraise était blanche au moment où elle a été cueillie.
Bien sûr.
Voilà. Donc voilà. Une bonne fraise, non seulement c'est rouge à plein, ça doit sentir bon, oui, et de loin.
Et cueillie au bon moment, avec une main humaine, j'allais dire plan par plan, et je vois la famille Pic, et quand je vais les voir avec ses employés qui sont là et les patrons aussi, et je l'ai fait une fois. Un jour, le Élie, l'oncle de Thibault, me dit, tiens, va ramasser quelques fraises pour te faire plaisir, et fais-toi une petite barquette. Je suis sorti éreinté. Je lui ai dit, je ne regardais plus jamais le prix de cette fraise, vu la souffrance que ça suppose. Merci de vous donner autant de mal pour nous faire autant de bien.
Quelle variété chez vous, Thibaut Pic? Parce qu'on a la Gariguette, la Sifflerette, la Charlotte, la Mariguette, la Ronde, la Clairie.
La Délie.
Alors nous, on en a trois. On a la Clairie, la Dream et la Sifflerette. Pour moi, la Clairie, c'est l'entrée de gamme. Mais voilà, en pleine terre et ramassée.
Un peu massive, un peu grosse.
J'ai aucun problème avec cette fraise. Voilà, un peu grosse. Après, il y a la Dream. Là, on rentre déjà dans de la variété haut de gamme, qui est plus rouge, qui est très aromatique, qui est très sucrée, etc. Mais ensuite, pour moi, le meilleur, c'est la Sifflerette, parce qu'en plus d'avoir ces mêmes qualités, elle a un parfum qui touche presque à l'exotisme, j'ai envie de dire.
Absolument, absolument. Tropical,
en plus du goût de la fraise. Voilà,
pour retenir, Sifflerette est le plus local possible.
C'est le Saint-Sacrement. Hein, je crois que c'est une cousine, une évolution de la Gariguette, la Sifflerette. Elle est un petit peu oblongue. Hein, et quand on croque dedans, si elle est un tout petit peu chaude, vous voyez, et vous avez des arômes, ce qu'a dit Thibault, c'est le goyave, le litchi, des parfums, la rose. C'est exceptionnel, le panel olfactif et aromatique qui se dégage d'une petite boule rouge comme ça, sortie de la terre de Provence.
Je voudrais juste qu'on termine, parce que j'ai appris quelque chose, et on aime ça dans le beurre et l'argent du beurre, ne rien gaspiller. Clara Gabillet, les queues de fraises, le verre, on peut aussi s'en servir.
Oui, on peut en faire d'une boisson en la faisant infuser pendant une heure dans une carafe d'eau, ce qui donne le goût de fraise. On peut agrémenter avec de l'amande, du citron. On peut aussi en faire un sirop avec le pédoncule des fraises, de l'eau et du sirop. On fait bouillir le tout, puis on fait réduire. Ensuite, on filtre avec une passoire et cela donne donc un sirop maison de fraises. Et si vous ne voulez pas les manger, c'est aussi utile pour les plantes, pour enrichir son compost. Ça peut aussi aider au démarrage des semis en mixant ces pédoncules avec de l'eau. On fait une petite mixture qui aide ensuite à faire pousser les graines. Et puis aussi, on peut aussi faire infuser, hein, comme je le disais, ces pédoncules, pas forcément que pour les boire, mais aussi pour en faire un parfum d'ambiance chez soi. Et puis j'ai aussi lu que si on les faisait sécher et qu'on les glissait dans notre portefeuille, ça peut porter chance. Et si on met cette petite feuille séchée dans notre poche, là, ça permettrait de trouver l'amour.
Ah!
On y croit ou pas?
Vous avez des feuilles de fraises dans la poche?
Toujours sur moi, mais en général, c'est que je les ai mangées.
Bon. Merci beaucoup à tous. Merci à vous, hein, Thibaut Pic, d'avoir pris ces quelques minutes sur RMC. Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse, producteur et fournisseur des palaces parisiens, les meilleures fraises du monde, selon Perico Légal.
Voilà, et chez Grand Frais, quelquefois, on les trouve en direct.
Exactement. Perico, on vous retrouve la semaine prochaine pour le beurre et l'argent du beurre. Et dans le courant de la semaine, dans Estelle Midi.
Pour décrypter l'actualité.
Mais c'est même dès demain, je crois, lundi, Estelle Midi 15h avec Estelle Denis et toute l'équipe.
Le beurre et l'argent du beurre, votre rendez-vous à retrouver en podcast évidemment sur l'appli RMC.
Allez, à tout de suite dans deux minutes.
RMC,
la matinale week-end.